Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Bienvenue dans le podcast Biomécanique. Je suis Jérôme Cazerolle, ostéopathe à Montréal, et dans ce podcast, je vous propose de partir à la rencontre de sportifs, d'athlètes et de spécialistes de leur domaine. Pour mieux comprendre la mécanique du corps et de l'esprit, pour vous aider à être plus performant au quotidien et surtout en meilleure santé. Bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui cette semaine et j'ai le plaisir d'accueillir la première Québécoise sur ce podcast, je crois. Oui, bah, j'ai eu des Québécois ici, évidemment, mais pas des Québécoises, pas encore. Et comme je te le disais tout à l'heure, ça va venir petit à petit, on va aller chercher d'autres personnes. Bonjour, Maïline.
Allô? Ça va?
Ça va très bien, merci. J'ai comme habitude, moi, de demander aux invités, je te propose de te présenter brièvement pour démarrer.
Mm-hmm. Oui, alors bonjour tout le monde. Mon nom est Méline Dauvan. Je suis, je suis thérapeute du sport ici au Québec. Je suis un peu devenue une spécialiste en termes de réadaptation fonctionnelle maintenant au Canada ainsi qu'à l'international. Donc, je suis fondatrice de Rehab U Movement and Performance Therapy. Peut-être que certains d'entre vous avaient déjà entendu parler de l'entreprise. Donc, c'est une entreprise qui offre la formation continue pour les entraîneurs et les thérapeutes. C'est des formations dans lesquelles je partage évidemment ma vision qui est Rehab is Training. Donc, qu'est-ce qu'on fait en réadaptation et comment on peut mieux intégrer ça à l'entraînement parce que actuellement, dans la plupart des cas, il y a quand même un écart qui existe entre ce qu'on fait en termes de protocole clinique pour la gestion d'une blessure et ce qui a besoin d'être fait pour ramener quelqu'un à la performance. Donc, c'est une expertise que j'ai développée au cours des 20 dernières années. Donc, une stratégie qui est très axée sur la réathlétisation, la force dans le continuum des soins, donc intégrer des contextes cliniques, des concepts cliniques dans l'entraînement. C'est ce que j'ai fait tout au long de mes études, tout au long de ma pratique jusqu'à date et autant... en termes de clientèle, ben autant avec monsieur, madame, tout le monde qu'avec les athlètes élites dans divers sports.
Tout à l'heure, je te demandais, est-ce que parmi tout ce que tu proposes, c'est surtout pour les thérapeutes, les entraîneurs, est-ce que le sportif amateur, le mec qui fait quelques entraînements par semaine, qui veut optimiser sa santé, ce qui représente quand même pas mal de des gens qui écoutent ce podcast. Est-ce qu'ils peuvent se retrouver dans ce que tu proposes sur les réseaux? Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être accessibles à eux ou ça reste quand même des choses qui sont plus pour les professionnels?
C'est surtout pour, comme je disais tantôt, surtout pour les entraîneurs et thérapeutes. Par contre, si on parle de la formation niveau 1, c'est pas rare que j'ai des gens qui s'inscrivent à la formation qui sont justement des athlètes récréatifs, appelons-les comme ça, des gens qui font du sport ou des gens qui s'entraînent, mais depuis longtemps, puis qui comprennent bien leur corps, puis qui veulent venir faire la formation pour mieux comprendre comment ils bougent, puis comment ils pourraient optimiser leur façon de bouger. J'ai des gens qui sont venus dans la formation niveau 1 en disant « ben je semble toujours avoir de la difficulté avec mes épaules, j'essaie de modifier mes entraînements, mais ça revient toujours » et réussissent à sortir de cette formation-là avec quand même un bon bagage, non seulement d'outils, mais aussi une meilleure compréhension de du mouvement et une meilleure compréhension de stratégies à mettre en place pour vraiment changer la façon dont il bouge, qui peut-être contribue à des récidives de douleur. Donc, il y a quand même dans le niveau 1 une révision anatomique pour que tout le monde soit sur la même page en ce qui a trait à ce qu'on veut dire quand on parle de la fonction du complexe de l'épaule, du complexe de la hanche. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui a vraiment pas une bonne conscience de son corps ou une bonne connaissance, c'est peut-être moins accessible, mais quelqu'un qui s'entraîne ou qui bouge depuis longtemps, qui comprend bien son corps, peut très bien venir chercher des outils, une façon de modifier leur entraînement et leur façon de bouger.
C'est intéressant ce que tu dis, j'en discute d'ailleurs souvent avec des collègues ou même dans ce podcast avec des personnes qui sont pas nécessairement dans le milieu de la santé. C'est que généralement, c'est difficile, je parle du non-professionnel, il est difficile de voir souvent des non-professionnels qui s'intéressent à ce genre de... à améliorer sa santé ou disons à essayer de faire de la prophylaxie sur des douleurs, sur des blessures, tant qu'ils ne se sont pas blessés eux-mêmes. C'est un truc, tant que t'as pas eu mal... En fait, tu vas pas chercher à ne pas avoir mal. C'est hyper rare. ce qui fait que j'imagine que les. Est-ce que ça t'est déjà arrivé quand même d'avoir des gens qui n'avaient aucune douleur, qui n'avaient pas de blessure, qui se portaient bien, qui n'étaient pas dans le milieu de la santé, ni de la thérapie, ni de l'entraînement, mais qui venaient quand même, qui avaient consulté tes cours, consulté ton contenu, étaient venus à des séminaires. Est-ce que tu en as vu ou genre c'est jamais arrivé?
Je dirais que en majorité, si on parle de gens qui travaillent pas dans le domaine de la santé ou de l'entraînement, la plupart des gens qui vont visiter soit le blog, aller chercher un truc gratuit, un vidéo gratuit ou un e-book gratuit sur le site, ou venir faire la formation ou même vouloir prendre un rendez-vous en clinique, en cabinet, généralement, c'est des gens qui ont eu des douleurs. Par contre, ceci dit, tu sais, en termes de formation, ceux que j'ai eu dans formation qui ne travaillent pas dans le domaine, mais qui s'intéressent au mouvement, ceux qui sont venus dans la formation se sont intéressés à ça parce qu'ils avaient déjà eu des douleurs dans le passé ou avaient tendance à avoir des petites récidives de douleurs. Sinon, des gens en parfaite santé, si on veut, là, des gens qui ont pas de problématiques de blessures spécifiques, de douleurs ou quoi que ce soit, ben j'en ai déjà eu en pratique, donc en clinique, en cabinet, qui sont venus me voir pour juste optimiser leur mouvement parce qu'il y avait des plateaux au niveau de la performance qui n'était pas nécessairement relié à la douleur. Donc, j'imagine, et c'est possible que je sois pas au courant du profil de tous les gens qui viennent sur le site ou viennent chercher quelque chose, un morceau d'information sur le site, c'est possible qu'il y ait des gens qui, oui, n'ont pas nécessairement une blessure spécifique ou des douleurs spécifiques, mais qui viennent sur le site pour voir comment je peux juste optimiser le mouvement, donc optimiser ma façon de bouger pour performer plus, performer mieux. Ouais,
tu dirais que ça représente combien en cabinet, tu vois, de tes consultations one-to-one, ça représente combien en pourcentage? Je pars là-dessus parce qu'en fait, je trouve ça intéressant d'en discuter, tu vois, j'avais pas nécessairement noté les questions sur ça, mais ça permet de se rendre compte et de prendre conscience du truc. Combien en pourcentage tu penses viennent te voir uniquement pour un bilan? En ostéo, on appelle ça je fais un bilan de prévention. Il y en a combien comparativement à ceux qui ont une vraie problématique type douleur ou...
Je dirais que c'est pas le plus grand pourcentage. Tu sais, je veux dire, la clinique et la compagnie s'appelle RehabU. Donc, en tant que tel, le mot rehab saute aux yeux et quand on pense rehab, on pense, ben j'ai une petite douleur. Mais je dirais qu'il y a quand même, bon, tu sais, donner un pourcentage, c'est difficile, peut-être un 70-30, fait qu'il y aurait peut-être un 30% de clients qui se présentent seulement pour, ben écoute, je sais que ma mobilité overhead ma mobilité au niveau des épaules est pas terrible. Puis avant de me ramasser avec un problème, j'aimerais ça améliorer ça. J'aimerais ça avoir un plan structuré pour améliorer ça. Ou je sais que j'ai de la difficulté avec la profondeur dans mes squats. Puis éventuellement, j'ai peur que ça me donne des maux de dos. C'est ce que j'entends. Donc j'aimerais ça que tu regardes puis tu me dises est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour optimiser ça. Donc c'est pas la majorité de notre clientèle, mais effectivement il y en a qui viennent pour l'aspect préhab, l'aspect optimisation du mouvement.
Ça généralement c'est des cas plutôt intéressants parce que c'est des personnes qui sont proactives. J'en parle beaucoup et je continuerai à en parler de cette idée de proactivité de la personne qui souhaite guérir généralement. Mais là s'il n'y a pas de douleur, ils sont proactifs, donc c'est généralement un kiff, comme on dit, de travailler avec ces gens-là.
Potentiellement, c'est motivé par la performance. T'sais, nous, on est nos cliniques sont dans des gyms style CrossFit ou cross-training. Donc souvent, c'est un peu motivé par la performance, dans ce sens qu'il y a énormément de mouvements overhead. Et évidemment, si la mobilité n'est pas optimale, les gens ont de la difficulté à performer dans ces mouvements-là. Et donc, ça va les motiver à consulter. Mais bon, en même temps, c'est préventif, donc c'est quand même une bonne chose. C'est proactif quand même.
Toi, tu as une spécialité pour le CrossFit, pour le coup, ou pas spécialement, tes affinités en termes de sport?
Je dirais un peu oui, parce que j'ai beaucoup évolué justement dans, tu sais, nos cliniques sont dans des CrossFit, donc je vois énormément d'athlètes de CrossFit, donc énormément d'épaules. Fait que c'est devenu un peu une spécialité. J'ai quelqu'un aussi avec moi maintenant qui travaille beaucoup dans le baseball, fait que c'est aussi l'épaule, mais un peu différent. Je dirais que plutôt la spécialité ou la niche dans laquelle moi je travaille, la majorité de mes clients, leur sport, c'est l'entraînement. C'est-à-dire, c'est soit des gens qui font du CrossFit, dynamophilie, haltérophilie ou des gens qui s'entraînent en gym, en cours de groupe, etc. Donc, eux, tu sais, la réadaptation est axée sur les ramener à tout ce qui est entraînement. Ensuite, évidemment, j'ai d'autres clients qui sont des sportifs rugby, football, hockey, baseball, maintenant beaucoup. Mais j'ai énormément de gens que leur sport, c'est l'entraînement.
Il n'y a pas beaucoup de rugby ici. Hein? Montréal, c'est pas trop le sport populaire. Enfin, Montréal ou même le Québec en général, d'ailleurs.
Au niveau universitaire, il y a du rugby. Donc, moi, la majorité des athlètes que j'ai vus en rugby évoluaient à l'université. Sinon, non, j'en ai pas eu une tonne non plus. Là.
Est-ce que tu connais Alexandre Jolivet?
Non.
Non, c'est un crossfitter français assez populaire qui a fait de très bonnes places d'ailleurs au CrossFit Games dans sa catégorie et qui est un des on va dire plus connus en France que j'ai reçu sur le podcast il y a quelques mois maintenant.
Ok.
Je sais qu'il y a aussi un certain Willy Georges qui est assez connu en France. Mm-hmm. Tu le connais lui?
Je le connais pas personnellement, mais oui, je l'ai vu évoluer dans les CrossFit Games, effectivement.
Ok. Bon, j'ai envie qu'on rentre un peu dans le vif du sujet de la blessure du sportif. C'est un peu mon truc aussi. Ça va intéresser beaucoup de monde, je suis sûr, même ceux qui sont pas des thérapeutes, des praticiens ou des entraîneurs. Déjà, qu'est-ce que tu vois, toi, le plus souvent en termes de blessures? Tout à l'heure, tu as mentionné un peu, est-ce que le squat profond, j'arrive pas à faire un squat profond, est-ce que je vais me faire mal au dos? Tout ça, c'est des clichés, je voudrais y revenir parce que je trouve ça intéressant. Mais d'abord, ouais, c'est ça, on va essayer de couvrir un peu le truc. Les blessures les plus répandues que tu vois, toi, de ceux qui sont, comme tu dis, qui s'entraînent, en fait, régulièrement, quoi.
Mm-hmm. Ben, énormément, comme je disais tantôt, je vois énormément de problématiques au niveau de l'épaule, donc des tendinopathies au niveau de la coiffe, ça j'en vois énormément, de l'accrochage, on voit des conflits fémoro-acétabulaires, ça on peut en voir beaucoup aussi.
Je précise, pour le coup, pour ceux qui sont pas trop anatomie, c'est au niveau de la hanche, hein, des douleurs de hanche, fémoro-acétabulaires.
Oui. Fait que généralement, ça présente comme un pincement dans le devant de la hanche, dans les mouvements de flexion profonde. Là. Ça va souvent être le cas. Beaucoup de maux de dos, évidemment. pas nécessairement toujours relié à une pathologie, c'est-à-dire il n'y a pas toujours une hernie discale ou un truc comme ça, mais des maux de dos, je vois souvent des maux de dos très reliés à des mouvements très spécifiques. J'ai mal au dos quand je fais des deadlifts. J'ai mal au dos, tu sais, quand je fais des handstand push-up. Sinon, dans les activités de vie quotidienne, j'ai aucune limitation, ça m'impacte pas. Évidemment, je vois aussi des maux de dos autres qui impactent les activités de vie quotidienne et qui entraînent des limitations fonctionnelles dans le quotidien et dans l'entraînement. Mais souvent, j'en vois aussi très spécifiques à certains mouvements.
Est-ce que tu penses que les maux de dos, ils sont plus répandus chez les sportifs, ceux qui s'entraînent, ou plutôt, alors ton avis va peut-être être biaisé parce que tu ne vois pas forcément tout le panel de la population, mm-hmm. mais plutôt que ceux qui sont complètement inactifs, qui sont sédentaires.
C'est une statistique qu'il faudrait que je regarde techniquement, mais sachant que c'est une des premières causes pour l'invalidité, par exemple au travail, il faudrait regarder dans ces gens-là, est-ce que ce sont des gens qui sont sédentaires ou actifs. Je dirais que potentiellement, ça peut impacter beaucoup les gens qui sont inactifs aussi. Mais en termes de pourcentage, je pourrais pas le savoir. Tu sais, en thérapie du sport, ce qui est différent de la thérapie du sport versus la physiothérapie ou kiné là en France, c'est que nous, on travaille avec des gens qui sont physiquement actifs. Fait que des gens sédentaires, c'est assez rare qu'on travaille avec des gens qui sont pas des sportifs. Que ce soit des sportifs récréatifs ou élites, là, mais des gens qui sont sédentaires, c'est-à-dire des gens qui font pas de pratique d'activité physique, c'est assez rare en thérapie du sport qu'on voit ces gens-là. T'sais, notre expertise est vraiment en prévention, traitement de blessures musculo-squelettiques reliées à l'activité physique.
Et hormis la statistique, est-ce que toi, tu as un avis dessus ou pour le coup, t'as pas réellement d'accord. Moi, j'ai une opinion, hein. j'ai un avis, puis comme je reçois pas mal de personnes sur ce podcast, ça me permet d'en discuter. Et c'est intéressant d'avoir ta vision là-dessus.
Je croirais que ça dépend de la catégorie d'activité physique que les gens font. Si on parle de CrossFit, dynamophilie, etc., ben c'est sûr que le dos est très très taxé. Donc, potentiellement qu'on a un pourcentage élevé là. Évidemment, il y a des composantes techniques à ça. Il y a des composantes de programmation, de périodisation, de récupération, de facteurs bio-psychosociaux aussi. Est-ce que je pense que la proportion est plus grande chez les sportifs? Je dirais pas nécessairement.
OK. Donc, on a les épaules, on a le dos, on n'a pas donné les causes, mais c'est pas grave, on pourra peut-être revenir un peu le dos. On a le devant de la hanche, donc les conflits acétabulaires. Parce que je t'ai peut-être un peu coupé dans le truc, est-ce qu'il y a d'autres types de blessures ou c'est réellement ces trois qui sont le plus fréquentes?
C'est ce que moi je vois le plus fréquemment dans ma pratique. Évidemment, le genou. Donc, tout ce qui est douleur au genou, douleur variée au niveau du genou, là, les diagnostics peuvent être différents, mais de la douleur au genou, ça, j'en vois souvent aussi.
Je veux juste revenir sur les noms. On m'a fait une petite remarque récemment. Je suis peut-être pas assez strict niveau juridique ou les noms, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut pas dire. Moi, ça m'emmerde un petit peu tout ça. Tu sais, ce qu'il faut dire client, patient, etc. C'est les questionnements qui m'énervent un petit peu. Tu sais, chacun doit dire les bonnes choses pour pas risquer de blesser n'importe qui ou quoi. Je trouve que c'est pas. Mais bon, il faut le dire des fois pour remettre les choses à plat. Thérapeute. Donc il y a ostéo. Bon, c'est ce que je fais, ça, j'en ai longuement parlé dans le podcast, je pense que les gens, et puis je continuerai à en parler, les gens vont savoir à peu près à quoi ça correspond. Il y a le kinésithérapeute en France qui correspond ici au physiothérapeute, qui est à peu près la même formation en fait, universitaire. La thérapie du sport, ça c'est une autre formation encore, c'est celle que tu as. Ouais. Est-ce que tu m'as dit que t'étais physio aussi ou uniquement thérapeute?
Non, thérapeute du sport, uniquement.
Ok. On a ça et puis on a le kinésiologue qui est l'entraîneur. Voilà. Et toi, tu n'es pas kinésiologue, si?
En fait, les études en thérapie du sport, bon, ça a changé depuis les années parce que moi, j'ai gradué en 2001. Maintenant, c'est différent. Donc maintenant, si on prend exemple, le seul programme de thérapie du sport francophone en Amérique du Nord est à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il s'agit de, le prérequis est un bac en kinésiologie et ensuite c'est un DESS, un diplôme d'études supérieures spécialisées, je crois là le mot, en thérapie du sport. Donc, c'est comme un kin avec une spécialisation supplémentaire en thérapie du sport. Et c'était un peu la même chose dans mon temps. C'était un bac en exercise science avec une spécialisation en thérapie du sport.
OK, bon, ça couvre bien le truc. Les gens que tu suis, tu les appelles les clients ou les patients?
J'ai l'habitude de les appeler clients. Parce que pour ma pratique à moi, je fais énormément et probablement beaucoup plus de réathlétisation que de thérapie manuelle. Puis, bon, j'associe un peu patient à traitement, thérapie manuelle et client à structure d'entraînement, périodisation, etc. Fait que personnellement, moi, j'utilise le mot client. Puis pour moi, tu sais, je veux dire, bon, c'est de semantics, là. Je trouve qu'il y a beaucoup de, comme tu dis, il y a beaucoup de hype là-dessus. Est-ce qu'on devrait les appeler clients? Est-ce qu'on devrait les appeler patients? Qui a le droit d'appeler ça un patient? Est-ce que, tu sais, à quelque part, bon, un client, un patient, whatever. N'importe. Comment... Tant qu'à moi, c'est ça, whatever.
c'est des débats je sais pas s'ils devraient avoir lieu. En tout cas, c'est des débats qui concernent les conflits d'intérêts. Pas vraiment mm-hmm. ceux à qui, pas vraiment, qui ne servent pas ceux qu'on a envie, nous, de servir, en tout cas. Ouais. Les personnes qui veulent, les clients ou patients qui veulent aller mieux, ils en ont rien à faire, je pense, de savoir comment il faut qu'on les appelle. Par leur prénom, c'est déjà bien.
C'est ça. Je crois qu'ils nous diraient « appelle-moi ton client, appelle-moi ton patient, mais comme arrange-toi pour que j'aille mieux.
» C'est ça, exactement. Est-ce que tu te souviens, alors diplômé 2001, tu m'as dit
mm-hmm.
Est-ce que tu te souviens
Moi, je m'en souviens.
Oui, bah, du diplôme, évidemment, mais de ta première consultation, ta première rehab sur quelqu'un, comment ça s'est déroulé?
Ouais, ben je vais te conter deux histoires en fait, parce que quand j'ai terminé mon bac, puis dans ce temps-là, donc maintenant, comme je t'ai expliqué, c'est un bac en kinésiologie avec une année supplémentaire pour avoir le DESS, et qui fait en sorte que au bout de ça, t'as tes 1200 heures qui sont nécessaires pour faire ton examen de certification en thérapie du sport. Dans mon temps, tu finissais ton bac, mais tu n'avais pas encore accumulé tes 1200 heures, c'est-à-dire 600 heures cliniques et 600 heures sur le terrain, pour pouvoir faire ton examen de certification. Donc moi, j'ai été chanceuse parce que quand j'ai terminé mon bac, j'ai eu un contrat à l'Université Carleton à Ottawa pour travailler avec toutes les équipes universitaires et dans la clinique universitaire. Donc, je travaillais que avec les athlètes de l'université. Je voyageais avec les équipes pour faire le on-field. Donc, tout ce qui était terrain, donc les tapings, premiers soins sur le terrain aux besoins, etc. Et ça, c'était phénoménal parce qu'évidemment, tous les clients ou tous les patients sont des athlètes de l'université, ils sont assidus dans ce que tu leur donnes et tu peux t'impliquer au-delà de dans la clinique, c'est-à-dire que tu peux faire un suivi avec eux à l'extérieur, tu as un contact direct avec le coach, le spécialiste en strength and conditioning, donc il y a vraiment un entourage qui est très, c'est comme le travail rêvé pour un thérapeute du sport. Par contre, évidemment, c'était un contrat. Donc, quand j'ai fini ce contrat-là, ben là, c'est le prochain qui arrive pour la prochaine session, pour le prochain contrat. Donc, il n'y avait pas d'opportunité pour moi d'avoir un travail là. Donc, je suis revenue à Montréal. Puis, évidemment, j'ai appliqué en clinique de physiothérapie conventionnelle. Une clinique où est-ce qu'il y avait des physiothérapeutes, massothérapeutes, ergothérapeutes et, bon, un thérapeute du sport. Puis, je devais, à ce moment-là, être supervisée par un physio qui devait m'aider parce que j'avais pas encore complété mes heures, j'avais pas encore écrit mon examen de, de certification, mais c'était une clinique qui fonctionnait un peu drôlement, disons-le poliment comme ça. Et donc, je me suis retrouvée avec toutes mes propres patients. Je suis arrivée la première journée officielle et on m'a donné une liste, voici tes patients aujourd'hui. Puis c'était pas fait comme une clinique là qu'on peut imaginer avec toutes des lits un à côté de l'autre parce que c'était dans un ancien duplex. Donc, il y avait deux étages et il y avait des salles fermées.
On peut donner la clinique ou pas?
Je me souviens même plus du nom de la clinique. Je sais que c'était sur le boulevard Saint-Michel à Montréal. Mais il faudrait que je retourne dans mes vieux CV pour voir si c'était... Je suis restée 2 semaines.
Fait. Okay. Je te laisse continuer l'histoire.
Et donc, j'ai eu d'autres amis qui ont été embauchés à cette clinique-là aussi, qui ont aussi eu une expérience pas super. Bref. Donc, c'est ça, j'avais des patients et évidemment, ben le concept, le fonctionnement dans une clinique conventionnelle comme ça, c'est que les patients sont bookés aux 30 minutes, donc tu as souvent un overlap de patients. Puis, j'avais pas l'habitude de travailler comme ça parce qu'en clinique universitaire, ben je passais l'heure avec ou le temps nécessaire avec chaque athlète. J'avais pas 2 athlètes bookés en même temps nécessairement. Ou si je l'avais, c'est parce que je savais que je pouvais le faire tout dépendant où était rendu un athlète versus l'autre. Et c'est ça, un de mes premiers cas difficiles que j'ai eu, c'est quelqu'un qui est arrivé qui avait mal au dos. Sur son papier qui m'a donné, papier du médecin, diagnostic, entorse lombaire, c'était toujours ça, entorse lombaire, entorse lombaire, entorse lombaire.
Qui veut pas dire grand-chose. Hein.
C'est ça. Qui est rentré... Et là, je le fais rentrer dans la salle. Et évidemment, il a beaucoup de difficultés à bouger. Et là, il regarde la table de thérapie et il me dit « Ben, je peux pas me coucher sur ta table.
» Ah non, ça, c'est dur, ça. Parce que là, faut gérer l'humain. Et puis, il faut pas perdre la face non plus. Parce que si tu te montres un peu, tu te décomposes, la personne perd encore plus de confiance. Et puis, c'est un cercle vicieux.
Ah non, c'était... Et je dois l'avouer, j'étais... Je pense que je peux utiliser le mot aucunement préparé à ça parce que, bon, j'ai étudié en thérapie du sport et non en physiothérapie. On travaille avec des athlètes. Tu sais, j'avais le bagage de mon expérience clinique était en clinique universitaire avec des athlètes. Donc, ça, c'était quelqu'un qui était en arrêt de travail, quelqu'un en CSST. Que soit dit en passant, en thérapie du sport, on n'a pas le droit de traiter, mais j'étais supposée d'être supervisée par un physio.
OK. Ouais, non, mais c'est ça. Ouais. On te l'a donné. Il n'y avait pas de place ou oui, non, c'est bon, tac, il y a une nouvelle, on le donne à elle, et puis on ne se pose pas de plus de questions que ça. Et toi, tu arrives avec la situation. Oh.
Ouais, ouais. Alors, j'ai improvisé.
Alors, tu as fait quoi?
On est resté debout. Je lui ai fait faire des respirations. Ensuite, je lui ai fait juste essayer de se mettre comme, pas en équilibre sur une jambe, mais de mettre plus de poids d'un côté de l'autre pour, tu sais, juste commencer à générer un peu de mouvement tranquillement. Et c'est comme appuyer les hanches sur le bord de la table, puis éventuellement, on l'a couché sur la table. J'ai comme aucunement fait mon processus que j'avais appris au niveau de l'évaluation. Il a vraiment fallu que j'improvise, tu sais.
Ouais.
Fait que c'était probablement le cas le plus... un des cas les plus difficiles que j'ai eu. L'autre cas que j'ai eu, c'était une dame qui était forcément sédentaire, donc qui n'était pas quelqu'un qui faisait beaucoup... qui faisait d'activité physique, qui s'était fait une foulure de la cheville sur le côté du trottoir. Et tout ce que j'essayais de faire, c'était « Ah, ça fait mal. Ah, ça fait mal. Ah non, ça fait mal. Ah non, ça... » Ça, c'est une autre chose auquel on n'est pas... Tu sais, les athlètes, c'est comme « Ah, ça fait mal, mais c'est pas grave, continue. » Tu sais, fait que c'était... J'étais vraiment pas préparée à travailler avec cette population-là parce que c'était pas ce que j'avais fait jusqu'à date. Puis en même temps, j'étais comme « Mais c'est pas ce que je veux faire non plus. Je veux pas travailler avec cette population-là. Ça m'intéresse pas du tout, tu sais. » Alors, c'est ça. J'ai fait 2 semaines et j'ai quitté.
J'apprécie l'anecdote. Pour l'histoire, J'ai reçu quelqu'un hier en consultation, enfin oui c'était hier matin, dans une clinique dans laquelle je travaille ici, dans la petite Italie d'ailleurs. C'est pas très loin je crois de Villeray, un des gyms dans lequel je bosse. Ouais. Et qui vient, alors non il est arrivé, c'était une urgence, j'avais terminé mon shift. Et au moment où je termine avec mon dernier rendez-vous, il y a la réceptionniste qui me dit il y a quelqu'un qui vient d'arriver en urgence, etc. Donc je le prends et c'était un vieux qui avait mal, un mal de dos terrible, qui se ramène pareil avec la feuille comme ça. Alors qui voulait voir un physio à la base parce qu'il avait une prescription pour un physio, sauf qu'il n'y avait pas de physio à ce moment-là. Et puis il est arrivé, il n'avait pas pris de rendez-vous, il est arrivé à la clinique. Ah j'ai trop mal, est-ce que je peux voir quelqu'un? Et alors je l'ai pris et j'ai essayé. Alors c'est intéressant parce que ça montre que on n'a pas tout le temps les solutions pour tout. Parce que j'ai travaillé sur lui, j'ai essayé de bosser pendant j'ai fait une heure de temps. Un ostéo on prend entre 45 minutes et une heure. J'ai essayé de lui relâcher musculairement parlant, j'ai essayé de renouer de la mobilité. Vraiment, tout ce que j'ai pu faire, il était dans une crise aiguë absolue et j'ai pas réussi à le soulager. On a tenté à la fin, j'ai même débordé, je suis rentré chez moi bien plus tard que ce que je devais. On a même essayé de le mettre sur une table de décompression, un truc qu'il y a à la clinique, tu vois, où tu t'attaches la sangle pour essayer de décomprimer un petit peu les lombaires. On a testé 10 minutes, il n'y avait pas d'amélioration sur ses douleurs, donc on l'a renvoyé vers son médecin, on a essayé de l'accompagner pour la suite, mais tu vois, même après plusieurs... Alors j'arrive à gérer un peu mieux, tu vois, le truc, quoi, mais après plusieurs années de consultation, d'ostéo, t'arrives des fois avec des situations comme ça où t'es un petit peu désarmé finalement quand la personne quand tu lui demandes de bouger, de se mettre sur le côté, c'est quasiment impossible de se baisser, enfin de se baisser ça non, mais t'es un peu désemparé, tu sais pas trop comment faire pour la soulager et puis surtout hier moi j'ai vraiment senti l'impuissance de ce que je pouvais faire, tu vois, vraiment. Ouais. Et puis le pauvre, il avait que du Tylenol. C'était son médecin, il l'avait vu le mois dernier, il avait une prescription pour scanner, IRM ou rayon X le mois qui suit. Et entre-temps, il avait que du Tylenol. Quoi. Je lui ai dit, c'est pas possible, il faut un truc un petit peu plus fort là. Pour soulager. Ouais,
non, tout à fait. Je pense que c'est des expériences qui, tu sais, autant ça a été un peu pénible comme expérience, j'ai fini par réussir à le mettre sur la table, puis à quand même... Bon, le traiter, le soulager peut-être un peu. Mais ce type d'expérience-là, où est-ce qu'il faut improviser, je pense que c'est précieux dans ce sens que c'est pas tous les cas qui vont arriver, et j'imagine que tu le vois, c'est pas tous les cas qui vont arriver en cabinet, que c'est textbook, comme on dit, que tu commences ton entrevue, tu fais un peu ton évaluation et tu fais comme « Ah, c'est ça, c'est clairement X, tu sais, puis là, je sais exactement quoi faire. » Moi, j'ai énormément de cas où est-ce que c'est très casse-tête. Mmh. C'est pas de textbook.
Complètement.
C'est une drôle de présentation de la douleur. Puis souvent je suis très honnête avec le client et je leur explique, ben écoute, il y a un peu de ça, il y a un peu de ça. Je fais beaucoup d'éducation. Puis ce qu'on va devoir faire, c'est de faire un peu d'essai-erreur, tu sais, parce que on comprend pas exactement ou on n'est pas capable de mettre le doigt exactement sur ce qui occasionne ta douleur ou ce qui peut contribuer à ta douleur. Donc, on va travailler à, évidemment, gérer, contrôler ta douleur, puis essayer des trucs au niveau de ton mouvement, essayer des trucs au niveau de l'entraînement, faire un peu d'essai-erreur. C'est énormément de ce que je fais maintenant, mais c'est ce que je choisis de faire maintenant et c'est ce que j'aime faire.
je pense qu'on travaille un peu de la même façon. Là. Je me reconnais dans ce que tu dis, tu vois. Et c'est vrai que les cas théoriques super, comme tu le décris, ou ah, ben c'est ça, c'est tu trouves vite et puis tu résous plus ou moins vite le problème. Ça représente un infime pourcentage enfin, en tout cas, de mon côté, tu vois. Et c'est vrai que la plupart du temps, ben, tu tâtonnes et puis t'essayes. Et puis des fois, il y a des choses qui fonctionnent, des fois, il y a des choses qui fonctionnent pas. Je trouve que c'est une approche sympa. Et puis l'éducation, c'est hyper important.
Donc, puis on peut pas passer à côté parce que, évidemment, si on veut que le client embarque dans cette aventure-là avec nous, faut qu'il comprenne que je suis pas en train de te dire que je vais faire n'importe quoi. Je suis en train de t'expliquer que il va falloir qu'on fasse une intervention, qu'on step back, puis qu'on regarde comment tu réagis, puis qu'on fasse des ajustements, parce que, bon, tu sais, puis moi, comme je te disais, je fais beaucoup d'explications. Normalement, c'est si tu as tel diagnostic par un médecin, ben on sait que ça. Mais là, dans ton cas, ça ne présente pas tout à fait comme ça. T'as pas ce diagnostic-là. Tu sais, fait que j'explique beaucoup et je pense que ça aussi, c'est un élément qui manque chez beaucoup de gens. Personne ne leur a jamais, le médecin ne leur a rien expliqué. Les autres thérapeutes qu'ils ont vus, ben, ils ont eu comme un 10-15 minutes de thérapie manuelle. Ensuite, ultrason, ils quittent la clinique avec quelques exercices, mais
ils savent pas vraiment le problème, ouais.
Il manque un peu d'éducation, il manque un peu de, tu sais, qu'est-ce que toi tu peux faire pour t'aider. On n'implique pas, peut-être pas assez le patient ou le client dans le processus. Et je dis pas que c'est comme ça partout, et je dis pas que toutes les thérapeutes font ça, mais c'est encore ce qu'on voit dans le milieu conventionnel. La personne moyenne se blesse, va en clinique de thérapie, se fait traiter, peut-être se fait donner quelques exercices. Puis, tu sais, fais pas ça, ou fais pas rien qui t'occasionne de la douleur. Mais c'est pas suffisant pour ramener quelqu'un à la performance. C'est peut-être suffisant pour quelqu'un qui est sédentaire. Et encore là, j'ai mes doutes là-dessus. Mais c'est certainement pas suffisant pour un sportif qui veut revenir à son sport, à son entraînement.
Qu'est-ce que tu penses d'ailleurs du diagnostic qui sont faits par les médecins de manière générale quand c'est des troubles, des problèmes au niveau locomoteur, donc musculo-squelettique, ce qui est entre les articulations, les muscles, les tendons, tout ça. J'ai un peu l'impression qu'il y a un peu un vide de manière générale du corps médical, mais enfin après, enfin un vide. Attention, j'exagère, il faut que je pèse mes mots parce qu'il va pas me faire attaquer. Non, quand je dis un vide, c'est que, en fait, s'il y a autant de physios, autant d'ostéos qui arrivent sur le marché, s'il y a autant de cliniques, etc., c'est qu'à un moment donné, peut-être que le corps purement médical n'a pas réussi à trouver la solution ni à trouver le problème de ce genre de trouble. Et donc et puis très souvent, ils viennent directement vers nous sans forcément passer par le médecin. Est-ce que tu penses, toi, j'ai un peu biaisé ma question, je l'ai orientée évidemment, que le diagnostic, il est fait par le corps, par les médecins? Est-ce que c'est quel est ton avis là-dessus?
Légalement, le diagnostic, oui, et doit être fait par le médecin.
Mais est-ce qu'il est bon? Est-ce que souvent il est est-ce qu'il s'en occupe? Est-ce que c'est pas juste à chaque fois renvoyé? Et puis, alors, entorse lombaire, souvent c'est lombalgie. Hein. Ça s'arrête à lombalgie, ouais. Donc ça veut encore plus rien dire, si on, dans un sens.
Ouais. Mais je pense que c'est important de le considérer. Je pense que peut-être le ce que les gens obtiennent en termes de, entre guillemets, rehab, c'est seulement le traitement. Mais le traitement, souvent, il est focusé seulement sur le diagnostic, seulement sur la structure. Ça, c'est pas de la rehab dans mon livre à moi. Parce que dans mon livre à moi, si tu as un diagnostic, s'il y en a un, là, une pathologie anatomique, mettons qu'il y a une résonance magnétique, il y a une tendinopathie fémoro-patellaire. OK, fine. Et il y a une partie de la thérapie, du traitement, de la thérapie manuelle qui va être focusé sur la structure, le diagnostic, et c'est important parce que il faut gérer la douleur, parce que si on gère pas la douleur, ben on va tout le temps bouger en fonction de la douleur et on pourra jamais retrouver le mouvement fondamental optimal. Donc ça, c'est important. Le problème, c'est que les gens n'ont que ça. Alors qu'il manque tout le fonctionnel autour. Donc, t'as ton diagnostic structurel, mais il y a tout la balance de la chaîne cinétique à considérer. Il y a tout l'effet que ça va avoir d'avoir de la douleur au genou, donc de marcher différemment, voire boiter pendant un certain temps. Qu'est-ce qui arrive au niveau de mon pied? Qu'est-ce qui arrive au niveau de la hanche? Qu'est-ce qui arrive au niveau... Fait que tout ça. Et il y a personne en clinique conventionnelle qui a nécessairement le temps d'adresser ça. Ça nécessite un deuxième rendez-vous avec le client pour bâtir une structure de réadaptation complète. À ma connaissance, personne ne fait ça en clinique conventionnelle, donc ça prend des gens pour faire ça. Fait que le diagnostic, oui, est important parce que bon, et s'il y a des contre-indications à y avoir, ben ça va être important de le savoir. Par contre, comment je peux dire ça? Politically correct.
Oh, tu peux.
On va déjà avoir une bonne idée en faisant certaines de nos évaluations, ou du moins en thérapie du sport, que, bon, surtout maintenant qu'on utilise le terme tendinopathie, puis qu'on sait que c'est un continuum, ben je sais en faisant mon évaluation avec mon historique, mon onset de douleur, mes tests, etc., ben je sais que il y a quelque chose au niveau du tendon fémoro-patellaire. Est-ce que j'ai besoin d'aller le confirmer par résonance magnétique avant de commencer une intervention en réadaptation? Non, je crois pas. Et si la personne va voir le médecin, ben c'est ce qu'il va écrire sur le papier, puis peut-être pas nécessairement envoyer la personne en résonance magnétique immédiatement. T'sais, fait que je pense qu'il faut faire la part des choses. Et c'est quoi le flag qui va dire, ben là, je pense que tu devrais retourner voir ton médecin pour avoir des tests diagnostiques plus profonds, c'est si la personne ne répond pas à un traitement conventionnel. Tu sais, techniquement, c'est un peu ça. Parce que ça change pas comment on va intervenir de savoir que c'est ça. Tu sais, et bon, si on parle de au niveau lombaire, si on parle de toutes les différentes pathologie qu'il peut y avoir au niveau des disques intervertébraux, par exemple, puis la façon que ça peut se manifester, puis comment le mouvement peut affecter ça, bien là, c'est sûr que ça devient plus intéressant de le savoir, parce qu'on va savoir quels mouvements vont risquer d'exacerber la blessure. Mais sinon, est-ce que forcément on doit avoir le diagnostic? Non. Tu sais, on peut faire notre évaluation avec notre client, puis savoir qu'est-ce qui est irritable, puis bâtir notre intervention en fonction de ça, c'est notre impression clinique, tu sais.
OK. J'aime bien l'idée. On s'y retrouve. Donc, 2 semaines passées dans cette clinique, bon, c'est pas du tout ce que t'aimes faire, t'apprécies pas. Qu'est-ce qui se passe après? Tu changes d'endroit, t'intègres une nouvelle équipe, des athlètes?
En fait, moi, j'ai toujours traîné dans les gyms. Je m'entraîne depuis l'âge de 16 ans, à peu près. J'avais toujours travaillé pendant mon bac.
Je ne ferai pas l'affront de te demander ton âge. Hein. Je vais respecter ça.
43.
Non, mais fallait pas le dire. Fallait garder le secret. Mais OK, donc ça fait un bon paquet d'années que tu...
Tu vois, ça me dérange pas de le dire.
T'en parlais 10 de moins.
Quand même. C'est ça. Donc, tout au long de mes études, j'ai travaillé en gym. Donc, en quittant la clinique, je me suis dit, bon... j'imagine que si j'applique dans une autre clinique, ça va être sensiblement la même chose. Donc, je suis retournée travailler en gym. Puis là, quand je te dis travailler en gym, j'ai travaillé dans plusieurs différents gyms. J'ai eu plusieurs fonctions dans des différents gyms. Donc, on parle de réceptionniste et, surveiller le plateau et faire le programme d'entraînement gratuit qui vient avec l'abonnement annuel. En centre de santé, mieux-être, en milieu de travail, et là, faire des évaluations ergonomiques de bureau, des évaluations de posture, des programmes d'entraînement et tout ça. Fait que j'ai fait beaucoup de choses différentes en gym. Puis, j'ai toujours amené un peu ma pratique ou mes concepts cliniques en gym. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à faire du personal training, j'essayais d'axer beaucoup... sur la rehab, c'est-à-dire moi ma spécialisation c'est pas nécessairement je veux développer ma force, mais quelqu'un qui comme ben moi j'ai eu une opération pour le croisé antérieur il y a 8 mois, puis là je recommence tranquillement, puis j'ai besoin d'un entraîneur pour m'aider.
C'est toi qui l'as senti petit à petit que c'était ton affinité sur ça, ou comment tu l'as trouvé cette affinité? C'est à force de travailler avec différentes personnes avec les objectifs variés?
Je pense que c'est plus j'avançais dans mes études en thérapie du sport, tu sais, côté entraînement, j'avais toujours adoré ça, j'avais toujours aimé ça, mais j'ai vu l'opportunité d'intégrer ce que je voyais en thérapie du sport, en réadaptation à l'entraînement, sans devoir passer par le milieu clinique que j'aimais pas nécessairement. Ça n'a pas été un parcours facile, je te dirais, par contre, parce que de toute façon, si on retourne aussi loin que ça en arrière, le personal training, c'était plus difficile que de nos jours. en faire gagner sa vie à faire de l'entraînement personnalisé. C'était un peu plus difficile. Donc, j'ai eu des moments où j'ai loué, par exemple, loué un bureau dans un studio de yoga dans le Vieux-Montréal pour finalement avoir aucun patient, pas être capable de payer mon loyer parce que j'avais vu un patient.
Où c'est qu'il était, ce bureau?
Sur Saint-Paul. Okay. À ce moment-là, le studio de yoga s'appelait Prana. C'était une amie à moi de longue date qui avait ouvert ça avec une partenaire. Puis j'avais loué un bureau. J'avais vu un patient qui avait énormément de douleurs au niveau du bas de dos, beaucoup de rigidité. On avait travaillé beaucoup au niveau des hanches. Je l'ai vu une fois. Il a quitté en disant « Je me suis jamais senti aussi bien, mais il n'est jamais revenu quand même. »
Ah mince. Ben, alors, je ne sais pas, bonne nouvelle peut-être. Il n'a jamais eu plus mal de toute sa vie.
Peut-être. Je ne sais pas. Mais bref, ça n'a pas été... Ça n'a pas été facile, mais c'est venu un peu naturellement. C'est sûr que j'ai eu la chance, en travaillant dans beaucoup de gyms différents, de côtoyer beaucoup d'entraîneurs, beaucoup de très bons entraîneurs, et mes concepts d'entraînement sont solides. Et là, l'opportunité que j'avais, c'est de dire, ben, j'ai tellement une bonne compréhension de l'entraînement que ça me permet d'avoir une très bonne compréhension de comment manipuler l'entraînement pour fitter un processus de rehab. Donc, je peux intégrer tout ce que je connais d'un point de vue rehab, d'un point de vue clinique, pour bâtir des solutions de réathlétisation plus intéressantes que je te traite et je te donne 3x10 dumbbell external rotation pour ta coiffe des rotateurs. Là.
Ouais, ok. Je vois, c'est intéressant. D'ailleurs, Saint-Paul, bah, c'est pas très loin de Saint-Jacques, qui est. Je travaille dans une des cliniques. Une des cliniques à laquelle je travaille est sur Saint-Jacques, justement, actuellement.
Ça n'existe plus, ce studio-là. Je sais pas si c'est encore.
En tout cas.
C'est encore un studio de yoga.
Tu sais quoi, quand je me baladerai dans le coin, je regarderai si je vois qu'il reste des studios de yoga. Mais Saint-Paul est long, quand même. La rue est assez longue. Mais c'est super agréable de travailler dans le Vieux-Port. T'en as profité.
Ouais. Maintenant, je rêverais d'avoir un studio dans le Vieux-Montréal. J'adore le Vieux-Montréal. Mais bon.
C'est clair. C'est pas les. C'est assez cher. Bon,
oui, quand même.
Donc oui, bon, tu retrouves un petit peu donc cette affinité pour les sportifs, pour les athlètes, et en même temps le côté un peu réhabilitation, comme tu le disais. Donc tu fais plusieurs expériences, tu vois un petit peu ton truc, et petit à petit en fait tu développes, j'imagine, ta pratique. Tu prends un peu d'ici, un peu de là. C'est ce que je fais moi aussi, tu vois. Mais t'es bien plus avancé que moi dans ce truc-là, tu vois. Donc, à ton parcours, je vois un peu quel pourrait être le mien, tu vois. Dans le sens, aller piocher un peu les informations ici, tester ça. Et en fait, tu finis par avoir ta propre méthodologie, si je comprends bien.
Ouais. Mais des méthodes, il y en a plein. Des outils, il y en a plein. Des systèmes, il y en a plein. Tout le monde, c'est ce qu'on trouve partout. Puis ce qu'on voit, c'est je vais employer telle méthode avec tous les clients, alors que comme il y a des perspectives de clients qui sont très différentes d'un client à l'autre, c'est possible que cette méthode-là soit pas la bonne pour ce client-là. Fait que je pense que ce qui est plus intéressant, c'est d'aller chercher des outils, de comprendre des méthodes, mais surtout de comprendre à quel moment ça va être pertinent de l'utiliser avec un client, parce que il y a plus qu'une façon de se rendre du point A au point B. Ça c'est sûr. Il y a une façon plus rapide. Parfois, ça peut être la bonne. Il y a une façon plus longue. Parfois, ça peut être la bonne. Donc, pour moi, ça a toujours été, quand je fais de la formation continue, et il faut en faire pour maintenir notre certification en thérapie du sport, ça a toujours été d'aller chercher des outils supplémentaires ou des méthodes, puis comprendre, ça va être vraiment utile quand j'ai un client X. Pas d'aller chercher une formation puis de faire, maintenant, je fais que ça avec tous mes clients. Puis c'est ce que je vois beaucoup. C'est ce que je vois beaucoup dans le domaine, puis c'est exactement ce que, moi, dans ma formation, c'est ce que j'essaie de pas véhiculer. Je véhicule, c'est comme une stratégie, c'est comme une façon de réfléchir à comment bâtir ton intervention. Tu peux utiliser les outils que tu peux utiliser des outils que tu vas chercher ailleurs, c'est très individualisé, c'est très, C'est pourquoi il y a plusieurs outils pour faire un truc, c'est parce que peut-être que celui que tu pensais utiliser avec le client, finalement, fit pas avec le client, mais facilement, tu en sors un autre de ta boîte d'outils. Fait que je pense que c'est un peu ça que les gens devraient aller chercher dans leur développement, plus de façons de me rendre du point A au point B, parce que deux clients, profil semblable, même diagnostic, si on veut parler de diagnostic, ou même présentation de douleur, si on veut être un peu moins technique, vont peut-être avoir un plan de réadaptation complètement différent, parce que c'est deux personnes complètement différentes.
Ouais, j'entends bien, ouais, je comprends. Quelqu'un qui vient te voir avec une douleur, un athlète a un problème à l'épaule, c'est quoi le processus que tu mets en place? Quelle est l'approche que tu vas adopter? Est-ce qu'il y a des grandes lignes? À part, on ne va pas parler du traitement, puisqu'on vient de le dire, il est personnalisé et tu vas aller piocher dans plusieurs trucs. Mais du moment où tu le vois jusqu'au moment où tu vas commencer à mettre en place le truc, quelles sont les grandes lignes? Quelle est l'approche théorique de,
ouais.
de ton... De
ben, je planifie vraiment une périodisation. Fait que premièrement, chaque fois que je vois un client, si je te fais comme un profil exemple d'une rencontre avec un client, ben, la première rencontre, c'est évidemment l'évaluation initiale. Où est-ce que là, il y a beaucoup de discussions autour de la problématique. On retourne loin en arrière, quand ça a commencé, etc. Donc ça peut durer quand même longtemps. Et évidemment, il y a la portion évaluation clinique, analyse du mouvement pour ce qui est des mouvements spécifiques et tout ça. Et il y a toujours un deuxième rendez-vous, parce qu'au deuxième rendez-vous, c'est là que, tu sais, moi, je retourne chez moi après, puis je prépare une structure, un plan d'entraînement en réadaptation. Fait que c'est idem à être un entraîneur, rencontrer un client, puis builder son plan d'entraînement. Sauf que c'est un plan d'entraînement de réadaptation. Donc, évidemment, puis il y a une stratégie que je suis, il y a une façon que je bâtis mes interventions avec des séquences de mobilisation, d'activation, d'intégration. Puis, j'ai toujours une périodisation de planifier, c'est-à-dire que si la personne a beaucoup de douleurs ou beaucoup d'épisodes de douleurs, le mouvement est très perturbé, très compensé, ben la première phase, c'est toujours de diminuer la douleur, contrôler la douleur, gérer la douleur, diminuer la fréquence des épisodes de douleur, puis rétablir le mouvement fondamental. Fait qu'il y a comme je te disais tantôt, il va y avoir là-dedans des choses très spécifiques au diagnostic ou à la structure qui est blessée, et des trucs beaucoup plus globaux pour restaurer le mouvement fondamental. Et ensuite, ben, il y a une progression au niveau phase 2, phase 3. Fait que généralement, j'engage le client sur au moins 12 semaines. Puis, à l'intérieur de ça, il peut y avoir d'autres rendez-vous aussi s'il y a un traitement, il y a de la thérapie manuelle qui peut être complémentaire.
T'as parlé, je t'ai entendu, activation, t'as nommé d'autres choses. Ça, c'est des étapes que tu déroules?
Mobilisation, activation, intégration. Fait que c'est vraiment la stratégie que j'utilise pour bâtir l'intervention, le plan, finalement.
OK.
Puis c'est un peu la même stratégie que j'utiliserais si j'étais one-on-one tout le long avec le client. Fait que la partie mobilisation, c'est de créer de l'espace ou aller chercher ou créer un meilleur espace dans lequel bouger. Donc, si jamais il y a des limitations au niveau des tissus mous, des tensions myofasciales, etc., ces trucs-là, de la rigidité articulaire, fait que tout adresser ces trucs-là. Bloc activation, c'est vraiment de créer, mais plus souvent qu'autrement, ça va être de créer une conscience, c'est-à-dire s'il y a une perturbation au niveau, exemple, de la scapula parce qu'il y a une blessure à l'épaule, bien, il va y avoir beaucoup d'exercices dans ce sens-là, dans ce bloc-là. Puis intégration, c'est vraiment la balance de tout ce qu'on va faire pour créer un nouveau comportement. On essaie de changer le mouvement, dans le fond, on essaie d'améliorer le mouvement ou on essaie de sortir quelqu'un d'un un patron de mouvement qui est compensatoire ou qui est fait en fonction de la douleur. Fait qu'évidemment, c'est pour ça qu'il faut être en mesure de contrôler la douleur. Puis, le bloc intégration, c'est vraiment, bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant pour m'assurer que cette personne-là puisse tolérer la charge sans, bon, qu'on dépasse la tolérance de la structure ou du tissu blessé, mais qu'on continue à assurer la force dans le continuum des soins. Mais qu'on l'empêche aussi d'aller dans un patron compensatoire. Fait que c'est toute la façon que je bâtis, dans le fond, le plat, l'intervention.
Ok, super. Bah, je trouve ça intéressant. Ces étapes comme ça, là, ça permet d'avoir une idée bien, tu vois, du comment se rendre à la fin, tu vois, avoir cette idée, cette vision de l'évolution jusqu'à la reprise totale, sans douleur, de l'activité en question. J'ai envie de revenir un peu sur ça. Les douleurs d'épaule, moi aussi j'adore ça. Enfin, j'adore ça. C'est pas sur moi, évidemment. J'adore ça. Je sais pas si j'adore ça, mais je m'y suis beaucoup intéressé, on va dire. Quelles sont pour toi les plus grandes causes des douleurs d'épaule chez le sportif, chez la personne qui s'entraîne régulièrement ? Tu m'as parlé de l'accrochage, coiffe de rotateur. Est-ce qu'il y a, ouais, y a des zones, des muscles spécifiques, des affections qui sont plus répandues ?
Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent contribuer. Donc, qu'est-ce qu'on voit plus souvent qu'autrement? Ben oui, on voit de l'accrochage. Si on parle d'un point de vue plus diagnostique, ben on voit souvent des tendinopathies au niveau supraépineux. Beaucoup de tendinopathies sous-scapulaires aussi. Du moins, moi, j'en ai vu quelques-unes. Bon, ce qui peut occasionner ça, je veux dire, ça dépend du client qu'on regarde. C'est sûr que l'épaule est hautement sollicitée en CrossFit, évidemment. Donc, est-ce que c'est pas nécessairement toujours une question de mouvement? Des fois, c'est une question de récupération qui est insuffisante ou des trucs comme ça. Évidemment, il peut y avoir des facteurs reliés au mouvement. Souvent, il y a des facteurs reliés à « je veux pas m'arrêter ». Donc, je continue à faire des mouvements qui continuent à me garder dans mon cycle de douleur. Fait que le gros de mon intervention pour ça va souvent être avec beaucoup de mes athlètes de CrossFit, autant ceux qui sont plutôt élites que ceux qui sont très récréatifs, ils sont très, puis ça je peux le comprendre, ils sont très accrochés à leur entraînement, ils veulent pas arrêter. J'imagine que tu le vois comme moi, c'est difficile de faire arrêter les gens, puis je pense pas que c'est à leur avantage d'arrêter de toute façon. Par contre, il faut mettre un certain contrôle sur sur le type de mouvement qu'ils font ou à quelle fréquence ils font des mouvements qui peuvent occasionner de la douleur. Donc, il faut couper un peu, il faut modifier un peu sans dire on va tout enlever. Puis évidemment, ça dépend du degré d'irritabilité, de douleur et tout ça. Mais c'est pour ça que avec cette stratégie-là, ben exemple, ce qui fait partie aussi du bloc intégration, c'est écoute, pour les prochaines 4 semaines, ben dans les deux premières semaines, j'ai besoin que tu me donnes ça. Tu fais pas de mouvement en overhead pour 2 semaines. Je te demande juste 2 semaines. Ensuite, semaine 3, semaine 4, on va intégrer X, Y, Z, mais juste maximum 2 jours par semaine. Fait que, tu sais, comme ça, je peux les limiter pendant un temps restreint et je peux, après ça, les maintenir le plus près possible du seuil de performance. Ouais, ça dépend aussi, parce que ça dépend est-ce que c'est une personne qui fait du CrossFit en boxe, en cours de groupe, qui fait 4 cours par semaine, ou est-ce que c'est un athlète élite qui a une programmation personnalisée? Ben là, il y a beaucoup plus de jeux. Si c'est la personne qui est en cours de groupe, ben il faut donner des modifications. Ben au lieu de, exemple, quand tu fais les wall balls, ben je veux que tu laisses tomber le ballon au sol à chaque répétition, parce que souvent ça va être attraper le ballon qui va être plus pénible que lancer le ballon, le ballon au mur. Fait que c'est des exemples. Mais...
Je vois, ouais. Un truc que je vois beaucoup, c'est les problèmes au niveau du biceps, du long biceps, long tendon du biceps. C'est, plus chez les sportifs ou chez les non-sportifs, ça je sais pas, mais de manière générale, c'est probablement dû aussi à la posture de l'épaule de plus en plus. Mm-hmm. Donc, bon, c'est toujours pareil, hein. Faut diagnostiquer faut trouver qu'est-ce qui fait mal, hein. Qu'est-ce qui provoque la douleur? Et ensuite, voilà, tu as tout le plan que tu viens de décrire.
Qu'est-ce qu'on a besoin de limiter? Fait que c'est pour ça que ça prend une meilleure gestion que de dire à quelqu'un, on va te traiter une fois par semaine, puis voici quelques exercices pour réactiver la coiffe des rotateurs, ce qui est correct en soi. C'est juste que si on fait juste ça, c'est pas ça sera pas suffisant. Mm. Et de leur dire ben puis sinon ben fais rien au gym que qui te fait mal. Fait que les gens sont un peu laissés à eux-mêmes à ce niveau-là. Alors que quand quelqu'un approche un entraîneur pour un programme d'entraînement, l'entraîneur va pas dire ben voici ton premier deuxième exercice puis pour le reste fais des trucs que t'es à l'aise. Non, il va bâtir un plan complet avec le nombre de séries, le nombre de répétitions, le tempo, le temps de repos, etc. Donc,
ouais, je vois.
Pourquoi on ferait différent en réadaptation alors que l'objectif est le même? Il faut arriver à recréer une tolérance au niveau de ce tissu-là qui est blessé, cette structure-là qui est blessée. Il faut maintenir la force le plus possible ailleurs. Puis il faut éviter d'avoir des patrons de moteur compensatoires qui deviennent vraiment permanents. Donc, ça nécessite, un entraînement, une périodisation, une certaine fréquence de répétition.
Et voilà. Pour les douleurs de dos concernant les athlètes, c'est quoi les causes principales que tu retrouves? On est sur de la hernie discale ou pas forcément?
Pas nécessairement. Je veux dire, souvent, ils ont même pas de résultats de test ou ils ont même pas eu de diagnostic ou sont allés voir le médecin, ils sont revenus avec, comme on disait tantôt, lombalgie ou entorse lombaire. Donc, souvent, si tu fais le profil de, tu sais, évaluer le rythme lombo-pelvien, aller évaluer si ils ont accès à toute la mobilité qu'ils ont besoin, puis remettre un peu de conscience au niveau du mouvement du bassin lombaire, etc., tu vas réussir à corriger pourquoi la charge est mal distribuée sur leur mouvement puis qu'ils se retrouvent avec la douleur au bas du dos. Et souvent, ça va être ça.
OK, donc pour toi, une des principales raisons d'une douleur dans le dos lorsque les examens ou que le diagnostic n'a pas montré quelque chose de bien établi, ça va être un débalancement et donc une mauvaise répartition de la charge et une mauvaise répartition de la force entre le côté droit et le côté gauche. Ça, pour toi, c'est la cause surtout des douleurs de dos. C'est intéressant, tu vois.
Ouais, si on parle de douleurs mécaniques qu'on dit souvent comme terme, c'est souvent une mauvaise distribution de la charge. C'est très facile pour le dos de prendre toute la charge. Et c'est très... Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte aussi. Si on parle de CrossFit, où est-ce que parfois il y a beaucoup de répétitions, ben là, tu as la fatigue qui embarque, tu as une dégradation technique qui embarque, et tout ça a comme un effet boule de neige. Fait que quand il n'y a pas de diagnostic, comme je te disais, de pathologie au niveau de la structure, ben c'est vraiment d'aller regarder bon comment je peux améliorer le mouvement fondamental. Pour moi, le patron de pivot de la hanche, c'est comme un fondamental. Tout le monde doit maîtriser ce mouvement-là avec en pleine conscience. Ça, c'est important. Pas juste je sais comment bien techniquement faire un deadlift, mais je comprends qu'est-ce qui si on me demande de décortiquer, je comprends ce qui se passe au niveau de comment mes pieds poussent dans le sol, comment mon bassin maintient sa position.
Tiens, d'ailleurs, en ce qui concerne le squat, on y revient dessus. Un squat profond, toi tu es pour, tu es contre, est-ce que ça a un impact? Quel impact plutôt ça va avoir sur la position du dos? Tu sais ce que tu me référençais au début?
Ça dépend. La question dans notre domaine, c'est toujours
tu sais que
ça dépend.
J'adore cette réponse parce que j'utilise la carte ça dépend à tellement d'occasions dans ma vie.
Ah, c'est sûr. Ça dépend de tellement de facteurs. Puis il faut éviter de parler en absolu. Hein? Les squats profonds, il faut squatter profond ou les squats profonds, c'est pas bon. C'est toutes des espèces d'affirmations hors contexte.
C'est exactement ça. Ça dépend pour qui, ça dépend quel est l'objectif, pourquoi, quand, comment, c'est...
Donc, squat profond, ça dépend. Est-ce que tu as besoin de le faire? Est-ce que tu es dans un sport qui te demande de faire des squats? Comment toi, tu arrives à faire ton squat profond? Tu sais, la façon de squatter et donc le squat dans lequel tu vas le mieux performer, ça va dépendre de beaucoup de trucs, de facteurs de proportion, ça va dépendre de la structure des hanches, ça va dépendre de énormément de dorsiflexion, de mobilité en dorsiflexion de la cheville, tu sais. Fait que si tu m'approches, je veux dire, c'est quoi ton objectif? Si ton objectif, c'est de squatter le plus de poids possible, comme le max de poids possible, ta meilleure option pour squatter le max de poids possible, c'est un low bar back squat. C'est ça, le squat qui va te permettre de lever le plus lourd possible.
C'est la barre, la barre dans le dos, c'est le back squat classique avec la barre le plus bas possible. Ouais. C'est ce qui va te permettre de développer le plus de force.
Au niveau des épines de la scapula.
Ouais, c'est vrai.
Ce qui va amener un tronc qui est plus penché vers l'avant, mais plus de drive au niveau des hanches. Si tu fais du CrossFit, ben il faut que tu maîtrises le front squat, parce que dans la majorité, ou si tu es un haltérophile, ben tu vas retrouver, c'est le front squat. Ça nécessite forcément que tu sois profond, entre guillemets. Ça nécessite que tu aies une bonne dorsiflexion.
Pour passer déjà, si tu es en haltérophile, c'est déjà pour passer sous la barre, donc descendre le plus bas possible. Donc là, ça a du sens.
Exact. Exact. Tu sais, si ton but, c'est d'être bon en front squat, ben c'est sûr que ça nécessite beaucoup de choses. Si tu fais du front squat, mais que tu n'as pas une bonne dorsiflexion de la cheville, tu vas avoir de la difficulté à garder ton tronc plus vertical, ce qui est nécessaire pour être le plus fort possible en front squat, parce que si ton tronc penche vers l'avant, c'est sûr que tu réussiras pas à tenir la barre. Donc, il y a plusieurs facteurs de à quel point j'ai besoin d'aller profond, je parle de quel squat exactement, puis c'est drôle parce que j'enregistre tout de suite après le dîner, disons, j'enregistre un masterclass sur le squat.
Okay.
Squat prehab pour le site web. Mais et c'est ça, j'en parle beaucoup. Donc, squat, voilà, pourquoi?
On fait une belle intro pour ceux qui voudront aller voir. Ça sortira quand, ça?
Ça va être sur le masterclass. Mais en fait, le masterclass, c'est un membership mensuel. Donc, tu t'abonnes, tu as les deux premiers masterclass gratuits, un masterclass sur l'hypermobilité, puis un bonus sur la rehab en virtuel. Puis après ça, tu as un masterclass qui unlock à tous les mois. Fait que tu reçois un nouveau masterclass à tous les mois. C'est des online, des lectures online de 2 heures.
Okay.
Sur des sujets variés.
Bon, on laissera les liens, de toute façon, on va le rappeler après. Mm-hmm. Bon, on va pas s'étendre plus sur le squat. Je pense qu'on a bien compris le truc. Et puis, ceux qui sont intéressés d'en savoir plus, ils sauront où aller pour se renseigner. une dernière chose que je voulais revenir, c'était sur la hanche. Donc, tu m'as parlé du conflit qui peut y avoir au niveau de l'articulation de la hanche avec des pincements, souvent. Ça, tu dirais que c'est dû à quoi, toi, de ce que tu vois?
Ben, il y a plusieurs facteurs, mais il y a beaucoup de gens qui vont appeler ça comme un FAI, femoral acetabular impingement. En fait, le conflit fémoro-acétabulaire, le diagnostic comme tel, c'est un diagnostic assez, un diagnostic qui a plusieurs dimensions.
C'est
avoir un réel conflit fémoro-acétabulaire, tu aurais une structure morphologique.
Oui, voilà.
Donc, un cam ou un pincer, donc une structure morphologique au niveau de la tête du fémur ou de l'acétabulum de la hanche qui...
conformation osseuse qui fait que... Ouais,
ça... ouais, qui fait en sorte que ça accroche.
Mais ça n'arrive pas à 30 ans d'un coup comme ça. Je veux dire, c'est un truc que tu as toujours eu, c'est ta conformation naturelle.
Souvent, c'est congénital. Ou ça peut être arrivé parce que t'as été dans un sport, de beaucoup de rotation, puis là, le cam s'est comme développé, c'est comme une formation osseuse qui s'est développée comme ça à cause du stress répétitif, mettons, sur la tête du fémur. Fait que ça peut être ça aussi. Ceci dit, c'est pas parce que t'as un cam ou un pincer que t'as nécessairement un conflit fémoro-acétabulaire. Donc, il y a d'autres facteurs aussi qui entrent en ligne de compte. Mais ce que je vois, souvent chez les gens qui ont, mettons qu'on dise, bon, j'ai un pincement dans le devant de la hanche quand je fais des flexions profondes, des squats profonds, ben ce qu'on voit souvent, c'est un mauvais contrôle du bassin. Ce qu'on voit souvent, c'est une mauvaise force d'extension de la hanche, un débalancement entre les extenseurs fléchisseurs de la hanche, des trucs comme ça. Fait que si tu regardes souvent aussi au niveau station unipodale, donc équilibre sur une jambe ou force sur une jambe, ça, il va avoir des manques aussi. Fait que ça contribue beaucoup à l'accrochage au niveau de la, au pincement dans le devant de la hanche. Fait que si les clients que j'ai vus qui avaient ça, c'est des facteurs qu'on a beaucoup travaillé. Les pieds, évidemment, aussi beaucoup. Le contrôle du bassin. Si t'as quelqu'un qui projette ton bassin en antéversion quand tu descends dans un squat. Puis là, souvent, il y a des problèmes techniques de squat aussi. Là, je pars. À ce niveau-là, il va y avoir des gens qui font du back squat, mais qui essaient de garder le tronc vertical. Mais un back squat, c'est pas fait pour avoir un tronc vertical. Fait que là, forcément, c'est possible que tu essaies de descendre en back squat, où est-ce que ton tronc doit avancer vers l'avant, mais dans ta tête, tu essaies de le garder vertical. Donc, tu sors la poitrine, tu fais comme une grande extension, tu amènes ton bassin en antéversion alors que ta hanche s'en va en flexion.
Donc ça,
t'as un pincement dans le devant de la hanche.
Fait comme une espèce de roue dentée, quoi.
Ouais.
Ok.
Fait qu'il y a souvent plusieurs aspects techniques aussi.
Et est-ce que tu retrouves aussi des fois une petite inflammation ou une sensibilité, une douleur au niveau l'insertion du droit, je pense au droit fémoral, droit de la cuisse ou le sartorius, cette zone-là qui est proche anatomiquement de la hanche, pas trop, enfin, qui est quand même assez proche. Les puristes diront c'est pas la même chose, mais il y a quand même, tu vois, moi c'est pas un truc que je vois très souvent, les hanches, pour être honnête. Quand je les vois, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de droit de la cuisse et un peu de psoas aussi derrière qui vient, qui amène une mauvaise posture de toute façon, quoi.
Ouais. Je te dirais que plus souvent qu'autrement, ce que je vais voir, c'est que le droit de la cuisse, lui, va souvent avoir un peu de tension résiduelle. Donc, si on teste vraiment le droit de la cuisse, on va voir qu'il y a quand même un peu de tension. Alors que le psoas, lui, va rarement, quand je fais un test de longueur de psoas, que je vais voir qu'il est réellement court. Souvent, il est faible. Donc, c'est pour ça que c'est quand je parle de stabilisation du bassin puis stabilisation des lombaires pour maintenir la position optimale pour le squat, le psoas va être important, mais les gens ont tendance à penser que parce que ça pince dans le devant de la hanche, mon psoas est tendu, ils vont étirer excessivement le psoas. Alors que c'est peut-être pertinent de relâcher un peu le droit fémoral, mais renforcer le psoas dans son rôle de stabiliser le bassin. Mm. C'est plus l'approche que je prends.
Excellent. C'est top. Écoute, je pense que je vais te poser quelques petites questions pour finir. Questions un peu moins orientées sport et réhabilitation. On a fait un bon tour quand même. Et puis, je vais pas te garder 30 ans non plus parce que j'enregistre des épisodes de plus en plus longs, malheureusement. Non, je trouve que c'est bien, ça fait un bon épisode et puis les auditeurs, ils pourront aller découvrir un peu plus ton travail derrière s'ils veulent approfondir tous les sujets dont on a traité aujourd'hui. Première question que je pose à tous mes invités en fin d'épisode, si on pouvait revenir 10 ans en arrière, quel est le meilleur conseil que tu aurais besoin d'entendre?
Oh, n'abandonne pas.
T'as eu envie d'abandonner?
Je mentirais si je dirais que j'ai pas abandonné, c'est-à-dire dans ce sens que j'ai délaissé un peu ma pratique pour aller explorer d'autres opportunités d'emploi qui étaient quand même dans le domaine de la santé et de la rehab, mais qui n'étaient pas hands-on, faire de la thérapie du sport ou faire de l'entraînement. J'avais eu des expériences difficiles et j'ai rapidement sauté à la conclusion que c'est pas un domaine qui va me permettre de gagner ma vie.
Pour le coup.
Et si Et j'ai peur qu'il y ait encore des gens qui se disent ça aujourd'hui. Fait je pense que ça vaut la peine de le dire. S'agit de s'entourer des bonnes personnes. On peut pas le faire seul. Même, tu sais, on n'arrête pas de se dire travailleur autonome, mais on devrait plutôt dire, ben, je veux être une entreprise qui fait de la rehab. Alors, j'ai besoin de quoi pour mon entreprise? Ben, c'est sûr que j'ai besoin d'autres joueurs parce que je suis pas nécessairement bonne en marketing, je suis pas nécessairement bonne dans tous les autres aspects. Fait que c'est plus que juste dire, ah ben, je vais être un travailleur autonome, c'est-à-dire que je vais avoir ma propre pratique, mes propres clients.
Font gérer des choses, quoi.
Oui, mais avoir une approche un peu plus complète et ne pas abandonner, je pense que je le dirais. Parce que je me dis, si à ce moment-là, j'avais fait... bon, évidemment, on parle d'un autre temps, mais si j'avais fait certaines démarches, ben, je serais encore plus loin aujourd'hui.
Tu penses à quelque chose en particulier?
Non, mais des expériences de partnership et de trucs que si je recule 10 ans en arrière qui ont pas super bien tourné, qui ont laissé un petit peu un goût amer et qui ont fait que je me suis dit bah peut-être que je vais explorer autre chose, alors que au lieu de me dire bah c'était pas les bons partners, c'était pas la bonne façon de faire, c'était pas
OK. Ouais. Deuxième question, est-ce que tu as eu un modèle ou un mentor dans ton parcours?
J'en ai eu plusieurs, sans toutes les nommer, mais comme je disais tantôt, j'ai eu l'opportunité de côtoyer vraiment beaucoup d'entraîneurs parce que j'ai travaillé dans plusieurs gyms différents. J'ai côtoyé de très bons entraîneurs qui ont vraiment aidé dans mon parcours, qui sont aujourd'hui encore des amis pour certains d'entre eux. Ils ont tous été un peu des mentors.
Christian Thibodeau, t'as collaboré avec lui aussi.
C'est un de ceux-là.
Je voulais que tu le cites à un moment donné parce que...
je les nommerai pas tous, mais oui, Chris. Moi et Chris, on s'est connus au Cégep, en fait, à Trois-Rivières. Puis c'est quelqu'un que, bon, j'ai suivi beaucoup. Il est devenu, évidemment, très très connu. Puis moi, je le suivais beaucoup. Je me souviens, dans le temps, on bloguait sur des forums. Je pense que c'était-tu bodybuilding.com dans le temps? Ou bref, tu sais. Et oui, j'ai eu l'opportunité de travailler quand il a lancé T-Barmy. J'ai travaillé avec lui aussi. Donc, ouais, c'est effectivement une de ces personnes-là que j'ai eu la chance de côtoyer dans ma vie.
Moi, de ce que je sais surtout de lui, c'est, je l'ai entendu sur quelques podcasts, je l'ai vu, il est assez réputé évidemment, hein, même pas qu'ici, je veux dire en Europe aussi, il est connu, il a fait des séminaires, tout ça, donc je crois que c'était Julien Volant, il me semble, que j'avais reçu dans ce podcast, qui me disait qu'il avait assisté à un séminaire de Christian Thibodeau, qu'il avait trouvé ça génial. Il a cette approche très particulière, en tout cas c'est comme ça que je l'assimile à ça, l'approche de l'entraînement selon le morphotype
neurotype.
Le neurotype, voilà, pardon, selon le neurotype, si t'es plus sérotonine, plus ceci, plus cela.
Ouais.
J'aimerais beaucoup en discuter.
C'est super intéressant d'ailleurs, cette formation.
Ouais, il faudra que je trouve un moyen de rentrer en contact avec lui pour essayer de voir si il pourrait répondre à mes questions. Troisième et dernière question, est-ce qu'il y a un livre que tu as envie de recommander aujourd'hui qui t'a particulièrement marqué?
Je suis vraiment jamais très bonne dans ces questions-là. D'un point de vue professionnel, d'un point de vue
ce que tu veux, la chose qui te vient, c'est pas on peut parler de sport, tu peux donner un livre de sport, de thérapie, de réhab, mais tu peux aussi donner un livre qui t'a marqué personnellement, un roman, un livre pratique, peu importe.
Un livre que j'aime beaucoup d'un point de vue professionnel, qui d'ailleurs c'est une thérapeute du sport des États-Unis, c'est Bridging the Gap de Sue Falzoni.
Ok, je me note ça.
Fait que ça, c'est un livre que j'aime beaucoup. Puis écoute, d'un point de vue personnel, une chose que ta réponse me permet de, de réaliser, c'est que ça fait trop longtemps que j'ai pas pris un livre qui avait pas rapport avec mon domaine professionnel et fait juste une lecture pour moi. Il y a énormément de livres que j'ai lus, que j'ai beaucoup aimé, en sortir un. J'ai beaucoup aimé The Monk Who Sold His Ferrari. Je me souviens plus de l'auteur, par contre.
Est-ce que tu peux me redire ça, s'il te plaît? Je vais regarder.
The Monk Who Sold His Ferrari.
Livre de Robin Sharma. Robin Sharma, je ne sais pas comment on pourrait le dire. En français, la traduction, la sagesse du moine qui vendit sa Ferrari. Jamais entendu parler de ce livre.
C'est bien.
Ok. Eh bien, écoute, je vais me noter ça et puis j'irai regarder. Super. Où c'est qu'on peut te retrouver pour tous ceux qui veulent suivre tes travaux et peut-être te contacter ou.
Oui, ben évidemment, il y a le site web, donc rehabu.com, rehab-u.com. Sur le site web, évidemment, il y a un blog, il y a énormément de contenu éducatif gratuit. Donc, il y a le blog, il y a un free mobility ebook, il y a une vidéo gratuite de 20 minutes. Je m'efforce à sortir de façon très, très régulière des articles sur le blog. Sinon, sur les médias sociaux, mais rehabu sur Instagram et Facebook. Il y a une page Facebook aussi. Encore là, je partage du contenu à ce niveau-là. Pour me rejoindre, on peut m'écrire à sur les réseaux sociaux, mais la meilleure façon, c'est vraiment d'envoyer un email à info@rehabu.com.
OK.
Parce que j'en reçois trop sur les réseaux sociaux.
Malheureusement, c'est le revers de la médaille de la popularité, tu vois. ce qui est une bonne chose. Bon, je laisserai tout ça, comme d'habitude, dans les notes de l'épisode. Vous retrouverez tous les liens. Une dernière petite chose, des projets pour 2021?
Une nouvelle formation. Donc, on va sortir une nouvelle formation. Ça devrait être en janvier.
D'accord. Je pense que l'épisode sortira en janvier, au cours de janvier. Si c'est pas janvier, c'est février, mais ça sera vraiment début d'année. Donc, foncez. Est-ce qu'il y aura peut-être, je sais pas, un tarif de lancement, quelque chose?
C'est sûr qu'il y a toujours une offre de lancement, généralement. Donc, si c'est pas déjà passé, au moment où ce podcast sort, si la formation est pas déjà sortie, ben, elle devrait sortir bientôt. On continue aussi à promouvoir le membership qui, pour les gens qui ont fait notre formation niveau 1, niveau 2, c'est vraiment une communauté de gens qui peuvent devenir des approved providers, donc qui vont être affichés sur le site thérapie, profiter de notre app parce qu'on a une app maintenant sur Android, iPhone pour faire tout le booking, l'évaluation des clients, la programmation des clients avec les librairies d'exercices et tout ça. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on continue à promouvoir pour ceux qui partagent notre vision de Rehab is Training. Donc ça aussi, si jamais ça suscite de l'intérêt pour les gens, ils peuvent envoyer un courriel à info@rehabu.com.
Super, je te remercie pour toutes ces informations. Moi aussi, j'aime bien cette vision de la réhab, de la thérapie, de la santé que tu as. Donc, j'ai trouvé ça super cool d'échanger autour de ces sujets. Avant qu'on se quitte et qu'on laisse les auditeurs vaquer à leurs occupations, même si je pense qu'ils nous écoutent en faisant d'autres trucs, est-ce que tu aurais un dernier message à faire passer, une chose à vouloir rajouter pour finir?
Pour les gens qui ont de la douleur, donc pour ceux qui ont des bobos qui reviennent toujours, une douleur qui semble pas partir, quelque chose avec lequel vous battez depuis longtemps, vous devez trouver quelqu'un qui va s'occuper de bâtir toute la structure qui va vous permettre de revenir à la performance. C'est pas seulement d'aller en clinique et vous faire traiter. Vous l'avez vu, ça va fonctionner. Le traitement va faire diminuer la douleur, mais si vous recommencez vos activités, souvent la douleur revient parce que il manque une structure pour vous reprogresser vers la performance. Donc, trouver quelqu'un qui va être en mesure de faire ça pour vous, c'est ça réellement la réadaptation.
Maylin Dovan de Rehab You. Merci à toi.
Merci à toi.
Partager ces infos. Si partagez cet épisode évidemment sur les réseaux, mettez-le sur Instagram. Faites soit une capture d'écran, soit directement via Spotify. Vous pouvez partager en story l'épisode en question. Identifiez-moi aussi sur @ biomécanique podcast, et puis vous pouvez identifier également Rehab You sur puisque c'est le nom d'utilisateur sur Instagram. Et comme ça, vous répandez la bonne parole. Hein, c'est ce que je dis. Tous ceux qui écoutent, voilà, comme ça, tous vos amis peuvent voir que vous écoutez Biomécanique. Et puis on est de plus en plus nombreux. Ou alors, si vous n'êtes pas très réseau, envoyez-le à deux de vos amis qui ont envie de prendre plus soin de leur santé, être peut-être un peu plus performant, que ce soit des athlètes. Pas forcément que ce soit des athlètes de haut niveau, hein, je veux dire, qui a dans ses connaissances beaucoup d'athlètes de haut niveau ? Bon, je ne sais pas, mais pas beaucoup. Mais voilà, si vous avez des amis qui font du sport, partagez-le si vous pensez que ça peut leur être utile. Et mettez des notes sur Apple Podcasts, voilà. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se dit à la semaine prochaine, à lundi prochain, avec un nouvel invité de qualité comme aujourd'hui. Moi, j'adore avoir ces discussions. Le podcast est toujours un truc hyper égoïste au final, puisque c'est moi qui m'entretiens avec des invités qui m'apprennent beaucoup de choses. Voilà, et puis je vais arrêter ce monologue. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne semaine. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Biomécanique jusqu'au bout. Vous pouvez l'envoyer à deux de vos amis ou le partager sur vos réseaux sociaux. Merci également de lui mettre une note de 5 étoiles avec un petit commentaire sympa. C'est ce qui me permet de mieux ressortir dans les classements. Laissez-moi votre email sur biomecaniquepodcast.com/lettre et je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que la lettre biomécanique une fois par mois où je vous partage mes meilleurs conseils et recommandations. Vous avez écouté le podcast Biomécanique. Je suis Jérôme Cazerolle et je vous dis à très bientôt.